Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je rappelle donc cette nouvelle, ça a été confirmé par la Sûreté du Québec, une intervention policière à Louisville qui, malheureusement, se termine par la mort d'une policière, la sergente Maureen Brault, qui avait plus de 20 ans d'expérience au sein de la Sûreté du Québec, qui était affectée au poste de la MRC de Masquinongé. Et comme l'a indiqué Bénédicte, lors de l'opération, le suspect a pris un couteau, a poignardé la policière, blessé l'autre policier. Il y a un autre duo qui arrivait et qui a neutralisé l'individu en question, un homme d'une trentaine, 35 ans peut-être, dans un contexte d'appel pour menace. Et évidemment, le bureau d'enquête indépendante qui a été mandaté. Et puis, il y a eu ces événements violents, double tentative de meurtre à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, des coups de feu dans Villeray. Et puis, hier matin, une autre tuerie aux États-Unis, nouvelle fusillade de masse. Cette fois, ça s'est produit dans une école privée chrétienne de Nashville, au Tennessee. Trois enfants, trois adultes ont été tués. Richard Châteauvert est à New York. Richard est avec nous ce matin. Et Richard, on sait d'abord que l'auteur de la fusillade a été abattu par la police.
Oui, les policiers ont reçu un appel à 10h30 hier matin. L'auteur de la tuerie a été abattu 14 minutes plus tard. Il s'agit d'une femme de 28 ans, transgenre, qui utilisait des prénoms masculins pour se décrire sur les réseaux sociaux. L'auteur est entré dans l'école en tirant des coups de feu à travers une porte de verre. Il s'agit d'une école de 200 élèves de prématernelle à la sixième année. L'auteur, qui était armé de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, a tiré de multiples coups de feu en se rendant au deuxième étage où elle a été abattue par les policiers. Deux filles et un garçon âgé de 9 ans ont été tués. Et trois adultes ont été tués âgés de 60 et 61 ans. Il s'agit de la directrice de l'école, d'une enseignante remplaçante et d'un gardien. C'était la 129e fusillade de masse aux États-Unis depuis le début de l'année.
Maintenant, les policiers n'ont pas encore divulgué le mobile de la tuerie, mais on sait déjà que l'auteur avait été élève dans cette école.
Oui, le directeur de la police de Nashville a évoqué le possible ressentiment de la personne transgenre qui a abattu les six victimes à la suite de ses études à l'école, mais elle a 28 ans, donc ça faisait assez longtemps qu'elle avait étudié dans cette école élémentaire. C'est pour le moment nébuleux. Mais les policiers ont retrouvé un manifeste des plans de l'école laissés derrière. L'auteur prévoyait de cibler d'autres lieux. Depuis 3 ans, la violence par arme à feu est la première cause de décès des enfants aux États-Unis devant les accidents de la route. Le président Biden a appelé le Congrès à adopter à nouveau une interdiction des armes d'assaut, comme il y en avait eu une de 1994 à 2004, mais il y a peu de chances pour que le Congrès adopte une telle interdiction. Les lois sur les armes à feu sont très libérales au Tennessee. Il est possible de porter une arme en public sans permis, d'acheter une arme sans vérification préalable. Et le membre républicain du Congrès qui représente la circonscription où a eu lieu la tragédie d'hier a offert ses pensées et ses prières aux familles des victimes. Et sur sa carte de Noël 2021, ce membre du Congrès était photographié avec sa femme et deux de ses enfants, tous portant des armes à feu.
Merci Richard Châteauvert qui est à New York et comme vous l'aurez noté, c'est en fait la personne qui est responsable de cette tuerie est une femme transgenre là, qui, depuis quelques mois, utilisait le « il ». Mais disons que c'est assez rare, pour ne pas dire là, exceptionnel, qu'une femme soit impliquée directement comme ça dans une fusillade. Et vous avez peut-être vu les images où on voit les coups de feu qui font voler en éclats les portes vitrées de l'école. La personne entre à l'intérieur, comme disait Richard, avec arme d'assaut et se promène arpentant les corridors à la recherche de victimes. C'est une autre tuerie qui s'ajoute à la longue liste de ces fusillades de masse aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de l'incendie du Vieux-Montréal, les corps des dernières victimes ont été retrouvés. Ce qui vient donc confirmer que c'est un incendie qui a fait 7 morts. La coroner dans le dossier, Mme Jeanne Kamel, a confirmé l'identification et des 4 dernières victimes. Et il n'y a pas d'indice qui nous laisse croire que d'autres personnes manquent à l'appel. Depuis l'incendie, on avait vraiment établi cette liste. Et ce sont des décès qui, au fil des recherches, se sont confirmés. Alors, la suite des choses maintenant, parce que ça, c'est important. Il y a une enquête de la coroner, enquête des policiers, quelles sont les circonstances. On n'a pas de détails, il y a des témoins qui se font entendre. Et ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que l'immeuble était sécuritaire? Est-ce qu'il y avait de l'équipement comme des détecteurs de fumée qui étaient fonctionnels dans toutes les pièces? Est-ce que c'était conforme aux règles? Est-ce qu'il y a eu des rapports? Bref. Il y a tant de questions à poser et est-ce qu'on devrait tenir une enquête publique sur cette question-là, enquête coroner? Peut-être, parce que c'est pas rien, là. 7 personnes qui décèdent dans un immeuble de cette nature dans le Vieux-Montréal. Et puis la presse nous rapporte ce matin que l'ex-maire de Montréal, il n'a pas été maire très longtemps, Laurent Blanchard, on était à l'époque là de, appelons ça, le départ de Gérald Tremblay, Michael Applebaum, et Laurent Blanchard est arrivé comme maire. On apprend qu'il a été agressé dans le cadre d'un cas de rage au volant. Et l'individu qui l'a blessé assez sérieusement a été condamné à 3 mois à purger dans la collectivité, dans un jugement qui vient d'être rendu. Ça se passe en juin 2020. L'agresseur s'appelle Philippe Gimonet. C'est un jeune homme et il prétend que l'ex-maire Blanchard aurait accroché son véhicule. Et Blanchard, qui était au volant, venait d'ouvrir sa portière, puis l'autre a pogné les nerfs, puis est allé frapper Monsieur Blanchard, qui circulait sur la rue Hochelaga, et qui a souffert quand même, là, après avoir reçu un tel coup de poing, disons de blessure, triple fracture de la joue, un œil au beurre noir, puis le gars, sa plaque d'immatriculation, ben, c'était son nom de famille. Fait que ça n'a pas été trop compliqué de le localiser. Très bien. On va parler de la réforme de la santé, le projet de loi qui va être déposé demain par le ministre Christian Dubé. Beaucoup de réactions hier suite aux infos qui ont circulé. Et elles sont nombreuses. Plusieurs observateurs, incluant l'ex-ministre Gaétan Barrette, considèrent que c'est la chose à faire, qu'on doit créer l'agence, qu'il y ait un employeur unique, que l'ancienneté accompagne les employés s'ils décident de changer. Et que aussi systématiquement que l'ancienneté ne soit pas dans tous les postes, dans toutes les circonstances, le critère quand on veut donner une promotion ou un poste précis à quelqu'un. Et l'autre volet qui est extrêmement important, c'est demander aux médecins spécialistes d'en faire plus de temps à l'hôpital, plus de temps à la salle d'urgence et être disponible pour aller travailler ailleurs en région. Alors, quand vous regardez les réactions, beaucoup de gens disent dans le contexte, ce sont des réformes essentielles si on veut améliorer le réseau de la santé puis offrir un meilleur service. M. Barrette a parlé hier d'une troisième guerre mondiale, pratiquement d'un affrontement. Est-ce que ce sera comme ça? On verra bien. Mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement Legault est dans une bonne position pour tenir face aux syndicats, pour le moment. Et quand je dis ça, là, ça veut dire qu'il est fort dans les sondages, il est loin d'une élection générale et il est capable de mener cette bataille s'il veut le faire. Beaucoup de syndicats sont déjà très, très en colère. Là. Puis on les comprend là, parce qu'ils ont des enjeux de cotisation, ils ont des enjeux également sur des droits acquis depuis belle lurette. Et c'est pas vrai que c'est partout dans le monde là, que l'ancienneté comme ça est le seul outil pratiquement. Hier, quand la présidente de la CSN me disait qu'on mette des critères, c'est vrai. Mais je peux vous dire que dans certains cas, là, puis des exemples, j'en ai reçu d'employés syndiqués qui ont été frustrés par des processus d'affichage comme ça. Mais la grande question que le ministre Christian Dubé doit se poser à ce stade-ci, il a l'appui de son boss, hein, le PM. Je vous raconte une anecdote. c'est Jean Cournoyer, qui était ministre du Travail avec Robert Bourassa. Il y a un conflit majeur avec les policiers de la Sûreté du Québec. Et là, ça brasse. Puis les policiers sont réunis à Drummondville en Assemblée générale. Le premier ministre dit à M. Cournoyer, tu t'en vas à Drummondville, là, puis tu t'en vas me régler ça. Puis là, c'est pas vrai qu'on va reculer, puis c'est pas vrai parce que c'est la police puis qu'ils sont armés qui vont nous impressionner. Puis dans ce temps-là, les communications n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors M. Cournoyer passe à 20, puis il s'en va à Drummondville. Arrive à Drummondville, puis le président du syndicat de l'époque lui dit, merci d'être venu, j'ai parlé avec M. Bourassa, tout est réglé. Il venait de laisser tomber son ministre par un simple coup de fil. Je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver. Mais M. Cournoyer disait toujours, il y en a un ministre qui est important au Québec et qui a du pouvoir, c'est le premier. Et je pense qu'il a raison. Alors, là, la table est mise. Et aussi, ce matin, vous avez cette lettre ouverte et cette étude menée par le Collège des médecins qui montre que on a des pas de géant à faire pour ce qui est de l'efficacité. Ce qu'on constate, donc, c'est que des citoyens du Québec sont privés d'un accès aux soins de santé auxquels ils ont droit, puis qu'il y a des variations régionales, qu'on n'est pas traité de la même façon, qu'on n'a pas, je dirais, agi en tenant compte pourtant de faits connus comme les changements démographiques, le vieillissement de la population, les coûts relié à certains traitements. Le président du collège, Dr. Maurice Godreau, sera avec nous aussi plus tard ce matin. Bon, le sommet des chantiers. Quoi vous dire, là, que c'est un bel exercice, que la Ville de Montréal va nous annoncer jeudi des mesures. Bon. Et que là, on a réuni les parties prenantes. Cette expression un peu fourre-tout, là. Il y aura des entrepreneurs, des spécialistes, des compagnies de technologie. Comment améliorer la circulation, principalement au centre-ville de Montréal. Puis, je rappelle le contexte, là. Tu sais, on nous promet, là, toutes sortes d'affaires. La fameuse charte des chantiers, la brigade de la mobilité. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des petits résultats, là. Mais il y a de plus en plus de comptes. Et non seulement il y a de plus en plus de comptes, mais ces comptes sont laids, sont gros, sont mal placés, sont abîmés, prennent plus de place que nécessaire. Quand la Chambre de commerce de Montréal a fait son étude pour nous dire que 94 % des rues étaient affectées par des travaux dans la dernière année et que c'était non seulement des travaux de la ville, mais surtout de l'entreprise privée, puis que c'était mal coordonné, que c'était trop long, qu'on a constaté que des chantiers étaient délimités, puis pendant un certain temps, il n'y avait pas de travaux. Puis là, il me dit qu'il y a des changements qui ont été faits au contrat. Peut-être. Mais ces chantiers-là doivent se faire. La coordination est pratiquement nulle. La ville résiste à des outils technologiques qui pourraient peut-être aider. Et ce qui est tannant avec la ville, ce sont les discours crus, les phrases vides qu'on connaît. Puis là, on nous dit, ben on va s'arranger pour que les chantiers soient beaux. OK, il faut que le chantier soit beau, là, puis il faut qu'on sache qui est derrière le chantier. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre autant d'espace? Est-ce qu'on contrôle? Et est-ce que, finalement, on a comme priorité, disons, le citoyen qui circule? Puis on se comptera pas de peur. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, là. À part un peu de maquillage, là, quand vous regardez, et puis une chance, là, qu'on n'est pas revenu à des niveaux comme avant la pandémie, qu'il y a encore du télétravail et que les gens restent chez eux. Mais avec le volume de véhicules qu'on retrouve dans la région de Montréal, puis avec un centre-ville élargi, là, où il y a autant de chantiers, puis il va y en avoir pour les prochaines années. C'est pas un sacrifice d'un an, deux ans, trois ans, là. Et l'autre question, ben, c'est la qualité des travaux. C'est, quand ce matin, là, tu roules, tu t'en viens vers le centre-ville de Montréal, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'il y a des grues, il y a des poids lourds qui défoncent la chaussée, puis les travaux qui n'ont pas été faits depuis des années font qu'à un moment donné, c'est des crevasses, ce sont des cratères, puis là, avec le printemps, les nids de poules. Fait que tout ça mis ensemble, on peut bien se compter des peurs puis penser que ça va être la grande révolution. On le souhaite tous, là. mais vous comprendrez qu'on peut être un peu sceptique. Le dossier du chemin Roxham, il n'y a pas beaucoup de détails, hein, vous avez remarqué depuis l'annonce, concernant le traitement de ces 15 000 demandeurs d'asile là, que le Canada a promis d'accueillir. Sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se pointent encore. Puis la plupart, ben, on les retourne de bord. Il y en a certains qui peuvent poursuivre la démarche parce qu'ils répondent aux critères du Canada, notamment avec les familles. Le ministre Fraser de l'Immigration a dit qu'il aurait une oreille tendue vers Haïti en raison de ce qui se passe là-bas, de la violence, les gens qui ont peur, les gens qui se poussent, qui veulent venir s'établir beaucoup au Québec, d'autres en Floride, par exemple. Principe un peu de réunir les familles. Mais on s'attend aussi à ce que des gens, je dirais, se promènent vers d'autres sentiers. Et que, Pierre, j'écoutais avec Luc Ferrandez, un invité, un ancien fonctionnaire du ministère de l'Immigration, qui a dit, garde, il va en avoir moins, mais ceux qui vont vouloir venir ici vont être récupérés par des passeurs, puis qui vont dire, ça coûte tant, on vous fait rentrer au Canada, on vous cache pendant les deux semaines nécessaires, puis après ça, vous sortez. Puis là, ben, vous allez pouvoir passer dans le processus de l'immigration. Et puis le Journal de Montréal qui nous dit que le fédéral a donné 75 millions à une firme d'enquête privée pour s'occuper des réfugiés. Rapidement, c'est le budget fédéral, beaucoup de spéculation, des mesures qui sont promises pour, entre autres, permettre aux Canadiens d'absorber le choc de l'inflation, de la hausse du coût de l'épicerie. Et aussi, il paraît que Mme Freeland va annoncer qu'on coupe dans les voyages des élus et dans les contrats octroyés à des firmes de consultants, comprendre McKinsey. Et que là, on va faire moins appel à ces entreprises extérieures. Et on sait qu'on a beaucoup, beaucoup dépensé, surtout à Ottawa. Alors, ça ferait partie des éléments du budget. Et aussi, peut-être deux nouvelles économiques en terminant. D'abord, il y a une étude qui a été faite par la firme Deloitte qui laisse croire que la récession sera moins grave, que la force de l'emploi, que le marché du travail est solide. C'est dans la presse que vous retrouvez ça ce matin. Et qu'on pense que les projections pour la fin de l'année 2023, puis surtout pour 2024, ben peut-être qu'on va s'en sortir, pas si mal. Et l'autre indicateur, ça m'étonne pas, là. Je pense qu'on avait déjà parlé avec Pierre-Yves. Selon l'agence immobilière Royal LePage, le prix des chalets va baisser. Et c'est déjà commencé. Une baisse de 8 % en 2023 jusqu'à maintenant. Et c'est un secteur, rappelons-nous la pandémie, là, tout le monde voulait avoir un chalet. Tout le monde cherchait un chalet à acheter, à louer. Et les prix sont partis en fou, là, en Estrie, dans les Laurentides. Puis là, les gens ont acheté. Deux facteurs maintenant. Là, les gens disent « whoop, 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 whoop ». Les taux d'intérêt ont augmenté. Fait que là, il y a des gens qui sont un petit peu plus pris à la gorge avec leur chalet, qui veulent le vendre. Moins d'acheteurs qui sont pas prêts à dépenser avec des taux d'intérêt comme ceux-là. Ce qui fait que la valeur du chalet est moins grande, il y a moins de demandes. Et l'autre chose, si on a trippé chalet, 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 quand vous regardez ce qui se passe actuellement, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent partir, ils veulent voyager, ils veulent sacrer leur camp. Peut-être à travers le Québec, mais disons que le trip chalet est sans doute un peu moins fort qu'il l'a été pendant la pandémie.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On vient de le dire, le ministre de la Santé, Christian Dubé, va déposer son projet de loi créant l'Agence de santé demain. Entre-temps, le Collège des médecins complète une tournée à travers le Québec où ils ont rencontré des médecins, des membres du public, arrivent avec un rapport. Il y a une lettre ouverte ce matin qui est publiée dans la presse et qui met en lumière, disons, des inéquités entre les citoyens du Québec pour l'accès aux soins de santé. Le président du Collège est avec nous, Dr. Maurice Godreau. Dr. Godreau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, le premier constat, c'est que quoi? Tous les Québécois sont pas sur le même pied quand vient le moment d'avoir accès à des soins de santé.
C'est ça. Le premier constat, c'est un problème d'accès un peu partout sur le territoire, mais plus dans certaines régions que d'autres. Et plus aussi par rapport à la vétusté de certaines organisations hospitalières que d'autres régions. Donc, il y a un problème d'accès partout. C'est ça qui a provoqué l'idée de faire une visite comme ça. En passant, le président du Collège des médecins n'avait jamais fait de telle tournée de tout le Québec. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? On a tenu un chantier sur l'accès et sur la cessation d'exercice pendant l'année, à mi-année 21 jusqu'à mi-22, avec des gens de la FMOQ, de la FMSQ, du ministère. Et on a fait un sondage à ce moment-là pour lequel on a rejoint plus de 2500 médecins et plus de 1100 représentants du public. Et il ressortait beaucoup d'éléments là-dessus.
Mais avez-vous un exemple?
Par rapport à l'accès.
À me donner, là, en région où, là, il y a vraiment une différence.
Par exemple, dans notre sondage, il était ressorti que 4 répondants sur 10 nous disaient avoir préféré ne pas consulter pour un problème de santé au cours de l'année, étant convaincu qu'il ne serait pas vu dans un délai raisonnable. Ça a fait réagir le président de l'ordre professionnel que j'ai le privilège de présider, qu'on est là pour protéger.
Juste comprendre, vous me dites 4 Québécois sur 10 qui disent on consulte pas parce que ce sera trop long, on n'a pas un accès, il n'y a pas de service disponible.
Ils nous ont dit ça au cours de l'année, avoir ressenti un problème de santé et ne pas avoir consulté, étant convaincu qu'il ne serait pas vu dans un délai raisonnable. Donc, moi qui est là pour protéger le public, c'est sûr que ça m'a interpellé et c'est là-dessus qu'on a décidé de se promener dans 12. J'ai visité 12 hôpitaux, rencontré des gestionnaires, des médecins, des chefs de département, des résidents quand il y en avait aussi en médecine, de même que les comités d'usagers partout. Et ressorti de ces trois grands constats, en fait. Le premier constat, c'est beaucoup l'accès. Donc, la difficulté d'accès partout sur le territoire, mais plus, comme je le disais tout à l'heure, dans certaines régions plus éloignées, je dirais, mais aussi pas trop loin de Montréal non plus, exemple à Saint-Jérôme, où c'était très, 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 très difficile par rapport à la vétusté, je dirais, de l'établissement et à l'augmentation effarante de la population à desservir au cours des dernières années.
Je vais vous poser une question qui, politiquement, est toujours à risque. Et quand je la pose à des élus, là, ils sont assez sur la défensive. Compte tenu de la grandeur du territoire, puis compte tenu des effectifs, on est en pénurie partout, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à regrouper au même endroit, je dirais, l'ensemble des spécialités, plutôt que de se faire croire que dans toutes les régions puis dans tous les hôpitaux du Québec, on peut avoir toutes les spécialités accessibles?
Moi, je pense qu'il faut revoir la façon avec laquelle on est organisé au Québec. Avec un constat comme on a fait, comme j'ai fait, des sondages à l'appui, c'est sûr que tous ensemble, il faut voir comment on pourrait travailler autrement. Il faut pouvoir travailler autrement. Les médecins, l'ensemble des professionnels de la santé, les gestionnaires, le gouvernement, le ministère, il faut regarder les choses tous ensemble pour voir comment on pourrait mieux être mieux performant. Je pense que tout le monde travaille fort, hein? J'ai été impressionné, hein? Les gestionnaires, les médecins rencontrés, même dans des endroits où c'est difficile, ils travaillent tous fort, tous avec plein de bonne volonté.
Là, mais des fois, c'est parce que t'as peut-être pas mettons, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas de spécialiste en maladie cardiaque parce qu'il n'y a pas assez de volume. Mm-hmm. Est-ce qu'on se compte des peurs quand on pense que tous les hôpitaux du Québec peuvent avoir toutes les spécialités?
Moi, je pense que tous les hôpitaux du Québec ne peuvent pas avoir toutes les spécialités, mais tous les hôpitaux du Québec devraient être suffisamment pourvu dans des spécialités que j'appelle de base, là. Des spécialités comme la chirurgie, la médecine interne, la psychiatrie, la pédiatrie. Ça, c'est des spécialités de base. L'anesthésie aussi. Mais la chirurgie cardiaque, c'est pas nécessaire. On va s'entendre qu'il y en ait partout, mais qu'il y en ait au moins un centre dans chacune des régions du Québec. Cette équité interrégionale-là, c'est ressorti aussi de notre rapport puis de ma visite par rapport à mieux faire en sorte que les diverses régions du Québec et les personnes qui sont en poste de responsabilité se parlent et définissent mieux les effectifs à redistribuer sur tout le territoire québécois, y compris les effectifs en médecine, évidemment.
Il y a des médecins qui disent que si on veut rester au top de ce qu'on fait comme profession, là, ben il faut avoir du volume puis il faut pratiquer. Puis il y a des médecins qui hésitent à aller en région en disant mais il y a pas un nombre suffisant, j'aime mieux rester dans les grands centres.
C'est vrai, ils ont raison. Il faut pour bien pratiquer, pour être tout à fait efficace dans notre pratique comme médecin, il faut avoir un certain nombre de patients par année. Donc oui, ça fait partie des discussions qu'on va devoir avoir pour faire en sorte de répartir le plus équitablement possible tous nos effectifs. Vous savez, les médecins, ils sont tous persuadés, ils savent tous qu'il y a des difficultés d'accès, même en travaillant très fort pour certains à leur 110%, comme on a l'habitude de le dire. Mais tous les médecins nous ont dit qu'un des moyens, ce serait de travailler plus en interdisciplinarité, en interprofessionnel. Donc, les médecins que j'ai rencontrés, tous d'accord pour faire partie d'équipes avec d'autres professionnels de la santé. Et c'est avec eux aussi, les autres professionnels de la santé, qu'on va pouvoir commencer à imaginer des moyens de régler ça, pas seulement la communauté médicale.
Bon, là, vous arrivez avec votre rapport alors que Québec dépose son projet de loi sur l'agence de santé. Puis de ce qu'on comprend, on verra demain, là, mais de ce qu'on comprend, il y a une volonté de demander aux médecins spécialistes d'en faire plus. Est-ce que ça rejoint ce que vous dites? Donc, plus présent en région, de sortir des grands centres, d'être plus présent dans les salles d'urgence. Bref, de plus de temps à l'hôpital pour traiter plus de patients.
Pour moi, c'est toute la communauté médicale. Et les médecins, c'est mes collègues, là. Ils travaillent tous fort, en grande majorité. Je ne dirais pas 100%, mais certainement 90%, 95% d'entre eux travaillent tous pour le patient. Je suis là, moi, pour protéger le public en assurant une médecine de qualité. Une médecine de qualité, ça veut dire une médecine accessible, pratiquée par des médecins en bonne santé dans des conditions optimales. Donc, moi, c'est toute la communauté médicale qui va être interpellée là-dedans et toutes les autres professions de la santé. La communauté médicale dans son entièreté. On parle de responsabilité populationnelle, de responsabilité sociale. C'est toute la communauté médicale qui doit regarder ça ensemble.
Et je parle pas de médecins. Le ministre vous dit que les spécialistes n'en font pas assez.
Ça, le ministre dit ça, je ne sais pas. Si on va voir le projet de loi, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la fois les médecins spécialistes et les médecins de famille vont devoir prendre leurs responsabilités pour répondre aux besoins de la population qu'ils ont à desservir dans leur région propre. Et ils doivent s'asseoir ensemble avec les autres professionnels de la santé. Je reviens là-dessus. Je le dis depuis au moins un an. Quand je suis allé l'année dernière en commission parlementaire pour le projet de loi 11, alors que j'avais dit aux parlementaires d'oublier l'idée d'un médecin de famille pour chaque Québécois, mais plutôt un professionnel de la santé pour chaque Québécois qui en a besoin, c'est à l'intérieur d'équipe. Donc, c'est ensemble qu'il va falloir regarder ça, les diverses professions de la santé, y compris la médecine, évidemment. Mais pas la médecine familiale versus la médecine spécialisée. Ensemble.
Vous êtes celui qui protège le public. C'est votre job, ça, comme président du Collège des médecins. On a une population, et on n'a pas découvert ça hier, là, qui vieillit. Il y a un vieillissement accru de la population. Il y a les nouvelles technologies en médecine qui coûtent cher, des traitements plus pointus, plus spécialisés. Est-ce que je comprends que Québec, on n'a pas trop planifié, on n'a pas trop, disons, préparé ce vieillissement avec les impacts que ça suppose en termes de soins à domicile, par exemple?
Ben, ça aussi, c'est un autre sujet. Je pense que j'ai beaucoup parlé depuis 2 ans, notamment, de première ligne puis d'équipe de première ligne. Et également de maintien à domicile. Ça aussi, c'est ressorti de notre chantier sur l'accès d'ailleurs. Un, des équipes de première ligne. Deux, le maintien à domicile. Et ça, avec d'autres professionnels de la santé, d'autres autres professionnels, on a interpellé le ministère, on a interpellé M. Dubé par rapport à travailler de façon plus étroite pour ces deux domaines-là particulièrement. Pour ce qui est du maintien à domicile, on a parlé à Mme de Sonia Bélanger il n'y a pas longtemps par rapport à sa volonté, que j'ai appuyée d'ailleurs et que j'ai félicité de travailler plus pour maintenir le plus longtemps possible les patients à domicile. Et une fois qu'ils ont fait leur séjour à l'hôpital, de faire en sorte qu'ils puissent quitter l'hôpital de façon plus précoce pour retourner chez eux en étant soutenus et maintenus à domicile par des équipes.
Puis là aussi, il y a des variations selon les régions.
Oui, ça aussi.
Importantes?
Ça rentre dans tous les problèmes d'accès. Il y a certaines régions, à mon avis, qui se sont mieux organisées que d'autres, de par leurs équipes respectives, que ce soit les gestionnaires, les médecins ou les autres professionnels.
Mais pour que les gens comprennent bien, Dr. Godreau, ça veut dire que si je sors d'hôpital après, je sais pas, un traitement pour un cancer, si j'habite à tel endroit, ben je vais avoir un suivi à domicile peut-être plus serré. Puis si j'habite ailleurs, ben ça va être plus compliqué.
Ça peut arriver. C'est là que vient la question de tout le travail d'équité interrégionale planifiée de façon provincialement, pas seulement par région.
Mais est-ce que c'est encore un problème réel d'attirer des gens en région?
C'est sûr que oui. Mais là aussi viennent les infrastructures qui sont vétustes, avec des équipes qui sont moins bien pourvues, des hôpitaux qui sont sous-équipés. C'est difficile d'attirer des médecins pour y aller, et c'est difficile de les garder là, de les retenir quand ils y sont. Donc, ces hôpitaux-là, c'est un grand constat de ma tournée aussi, des hôpitaux sous-équipés, sur lesquels il va falloir travailler soit pour mieux les équiper, soit pour changer leur vocation. Mais c'est sûr qu'il va falloir agir là-dessus également.
Docteur Godreau, merci d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Docteur Maurice Godreau est président du Collège des médecins du Québec. Alors, les dernières heures ont été marquées au Québec par des événements extrêmement violents. Je reviendrai sur ce qui s'est passé dans la région de Montréal, mais d'abord, il y a une policière de la Sûreté du Québec qui a perdu la vie lors d'une opération qui a mal tourné. C'est à Louisville. Cette policière est décédée et le suspect dans l'affaire aussi est décédé. Je vais retrouver tout de suite notre collègue Bénédicte qui est à Louisville. Alors, Bénédicte, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin là sur ce qui s'est passé hier soir?
Encore une scène qui est assez imposante du côté de Louisville. Ce matin, je me trouve tout juste devant l'endroit où ça s'est passé. Et la Sûreté du Québec a confirmé tôt ce matin que la sergente Maureen Brault, une mère de famille, policière depuis une vingtaine d'années, policière d'expérience, est décédée hier lors de cette intervention policière. On parle d'un autre policier aussi qui a été blessé, mais sa vie est hors de danger. C'est ce qu'on nous confirme. Ce qu'on comprend des événements qui se sont passés ici hier soir, c'est que dans le fond, les deux agents de la SQ se sont déplacés autour de 20h30. Ils venaient procéder à l'arrestation d'un individu, un homme de 35 ans, qui aurait fait des menaces. Donc, et quand on arrive à cet immeuble, un immeuble de 3 étages au coin de Saint-Aimé et Saint-Laurent, c'est là que ça aurait mal tourné au moment de l'arrestation, possiblement au moment de la lecture des droits. Ce que l'homme aurait fait, c'est qu'il aurait pris un couteau qu'il avait à proximité, que les policiers ne voyaient pas nécessairement au début, et il l'aurait brandi justement vers les deux agents. Et c'est là que la policière aurait été touchée. Et ce qu'on a compris, c'est que malheureusement, elle a succombé à ses blessures. Une scène qui se déroulerait possiblement sur les 3 étages là, du logement, selon ce que certaines personnes nous ont raconté. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'il y a un autre duo de policiers qui sont arrivés sur les lieux, qui n'étaient pas très loin, qui auraient fait feu justement à l'endroit de l'homme, et l'homme qui est décédé également. Donc, il y a une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui a été déclenchée. Et des enquêteurs, je les ai vus tout à l'heure, là, qui sont déjà sur place. C'est ce qu'on nous a dit. La scène qui est encore, comme je le disais, bouclé. Et c'est un endroit où il y avait d'autres locataires au moment où ça s'est passé. Ils ont été pris en charge. Et moi, j'ai parlé avec le maire de Louisville, Yvon Deshaies, qui m'a dit avoir parlé avec certains d'entre eux hier soir. On peut l'écouter.
Parce qu'il y en a qui étaient dans leur appartement quand les policiers ont tiré. Là. Donc, ils ont entendu des coups de feu. Là, ils ont dit, OK, vous sortez. La personne est à terre dans le passage, sûrement quelque part. Bon, alors les gens pas qu'ils ont vu, mais ils ont entendu. Alors là, ils sont dans un motel présentement. On en prend soin.
Et là, il semble que le locataire causait des problèmes depuis qu'il était arrivé il y a quelques mois. C'est ce qui a circulé comme information. C'est ce que le maire me disait aussi. Il disait avoir échangé avec le propriétaire des conflits possiblement avec d'autres locataires. On peut entendre à nouveau le maire qui nous explique.
Il faut dire aussi que l'individu, depuis qu'il est arrivé, causait beaucoup de problèmes. Beaucoup. Donc, les gens le connaissaient un peu, les gens l'évitaient, ça, j'ai bien compris. Hein. Les gens l'évitaient parce que il était un peu agressif, ou quoi que ce soit, si quelqu'un, mettons, le regardait ou il était pas de bonne humeur, et il faisait du bruit. Fait que tout le monde le craignait un petit peu.
Donc, les enquêteurs qui sont déployés sur le terrain, comme je le disais, le poste de commandement, ce qu'on nous a indiqué du côté du BEI, c'est que le service de police de la Ville de Montréal mène aussi une enquête criminelle sur les événements qui se sont passés. Mais malheureusement, donc, dans les dernières heures, il y a une policière en service, Maureen Brault, qui a perdu la vie à la suite de cette intervention-là auprès d'un homme qui était dans cet immeuble à logement-là.
Parfait. Bénédicte, tu restes avec nous. On va revenir sur les événements de Montréal. Je me tourne maintenant vers l'inspecteur-chef Patrice Cardinal, responsable des communications à la Sûreté du Québec. Monsieur Cardinal, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, nos pensées vont à vos policières et vos policiers ce matin, puis je dirais non seulement à la Sûreté du Québec, mais à l'ensemble des services de police à travers le Québec. C'est un matin extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette policière, d'abord, qui a perdu la vie?
Bien, comme a été résumé, c'est une policière qui avait un peu plus de 20 ans d'expérience, début quarantaine, qui s'est présentée sur les lieux avec tout son bagage d'expérience et accumulé dans les dernières années, qui malheureusement, dans le cadre d'une intervention qui a mal tourné, s'est soldée par le décès de celle-ci là, à l'hôpital dans la soirée.
OK. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une policière ou un policier qui perd la vie comme ça? La famille est avertie, puis il y a, j'imagine, un support qui est accordé aux policiers qui étaient présents lors de l'opération?
Il y a toute une prise en charge qui est faite à différents niveaux. Dans un premier temps, vous l'avez dit, au niveau des policiers qui l'accompagnaient dans l'intervention. Hein. Ça a été mentionné, on a eu un autre policier qui a été blessé, mais il y a eu d'autres policiers qui ont intervenu sur les lieux. Donc, dès le début de la soirée hier, il y a eu des déplacements qui se sont faits. Un de la haute direction et également de nos spécialistes en ressources humaines, du soutien psychologique qui a été donné au niveau des membres près de l'intervention. Il faut aussi savoir que le conjoint de la sergente Brault est aussi un policier de la Sûreté du Québec. Donc, il y a aussi un accompagnement qui s'est fait au niveau de la famille, des condoléances, le soutien, mais également au niveau des équipes de celui-ci. Là. C'est une région qui est quand même assez serrée. C'est des gens qui se connaissent depuis plusieurs années. Donc, ça vient amplifier l'ampleur du déploiement qu'on doit offrir sur le terrain.
Je regardais hier à Edmonton, on avait les funérailles de deux policiers qui sont décédés en service. C'était un jeune de 16 ans qui a ouvert le feu, puis les policiers intervenaient dans le cadre d'une dispute familiale, de ce qu'on comprend. On dirait souvent que ce sont des interventions qui, à première vue, semblent un peu routinières, qui débouchent malheureusement sur un drame.
Mais je dirais que ça nous rappelle, ces dossiers-là, ça nous rappelle tout le danger et l'imprévisibilité du travail policier sur le terrain. Toute intervention peut malheureusement, pour des circonstances différentes bien d'une à l'autre, changer, évoluer et malheureusement tourner quelquefois, pas trop souvent, mais quelquefois à des issues plus négatives, plus malheureuses.
Merci, Monsieur Cardinal.
Merci beaucoup.
Au revoir. Bonne journée quand même. Et je me retourne à nouveau donc vers Bénédicte parce qu'on le disait, voici ce qu'on sait sur Louisville, mais il y a eu d'autres événements violents à Montréal. D'abord, deux personnes blessées par balle dans Hochelaga-Maisonneuve.
Oui, tentative de meurtre autour de 22h30. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une fête. C'était sur l'avenue La Pointe, pas très loin du CHSLD Pierre-Joseph Trier. Donc, une fête qui semble aux abords normale. Il y a des gens qui sont sur le balcon, qui sont à l'extérieur. Et là, il y a une auto, une voiture qui passe au ralenti et plusieurs coups de feu sont tirés en direction de la maison où il y a la fête. Ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a une femme de 22 ans qui a été atteinte notamment aux jambes. Un homme de 18 ans qui était sur place aussi, qui lui a été touché au haut et au bas du corps. On me dit que pour l'instant, les deux personnes sont hors de danger, mais on parle quand même de blessures sérieuses. Les deux personnes qui ont été blessées qui n'ont pas nécessairement de dossier criminel. On comprend que la voiture s'est enfuie rapidement. Après, les policiers sur place qui ont trouvé plusieurs douilles au sol, qui sont à rencontrer les témoins, les gens qui étaient sur place, possiblement, et aussi à voir s'il n'y a pas des caméras de surveillance. Il n'y a pas d'arrestation pour l'instant. On est vraiment à accumuler toute l'information sur cet événement-là.
Parfait. Puis finalement, des coups de feu qui ont été tirés dans Villeray.
Oui, quelques heures plus tard, c'est une scène qui s'est produite autour de 3h50. Cette fois, c'était sur l'avenue de Lorimier, pas très loin de la rue Tillemont. Et ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait plusieurs impacts de projectiles qui ont été trouvés sur un commerce, un salon de massage. Donc, il y a des douilles qui ont été trouvées au sol aussi. Les policiers qui ne semblent pas avoir à répertorier de blessés qui seraient liés à cet événement-là. L'enquête qui se poursuit de ce côté-là aussi. Mais écoute, déjà hier, on parlait de tous ces événements qu'il y a eu au cours de la fin de semaine, la semaine dernière, vendredi, samedi, dimanche, dans des quartiers résidentiels, en plein après-midi, en soirée, sur des résidences où il y a des gens à l'intérieur. Disons que les derniers jours ont été très occupés pour les policiers du côté des événements avec des coups de feu. Et on le sait, là, quand le printemps arrive, c'est toujours le genre d'événement qu'on voit se reproduire. Mais là, disons que c'est à une forte cadence et que les policiers se posent des questions à savoir quel genre de printemps on va passer avec tout ça.
Puis, on en jasait hier matin, mais c'est un fait. Là. On arrive au mois d'avril, puis déjà, pratiquement, pas tous les jours, mais presque, il y a un événement qui implique des coups de feu. Parfois dans des quartiers résidentiels ou par exemple, on l'a vu à Ville-Mont-Royal, il y a des citoyens qui nous écrivent, qui se disent dans certains coins, il y a des graffitis, il n'y a pas d'éclairage, c'est sombre, on a peur de sortir et il y a des coups de feu qui sont entendus. Puis là, je veux pas, comme on dit, en rajouter, mais je rappelle qu'il y a quand même Leonardo Rizzuto qui a été victime d'une tentative de meurtre. Veut pas, ça amène de la pression. Puis est-ce que ça veut dire qu'on va assister encore une fois, un déploiement de confrontation de membres de gangs de rue qui se provoquent sur des questions de territoire. Mais c'est sûr que je me mets à la place des citoyens ce matin de Rivière-des-Prairies, d'Anjou, d'Hochelaga-Maisonneuve, de Villeray, puis bref, d'un peu partout à Montréal. Il y a un sentiment de dire, coudonc, là, est-ce que c'est reparti?
Oui, et ce sont souvent des jeunes. Hein? Faut le spécifier aussi, des jeunes qui sont impliqués, des jeunes qui, on se le rappelle, on le disait l'année dernière, qui n'ont pas nécessairement des tonnes d'expérience. À un moment donné, on se l'est dit souvent, il va finir par avoir une balle perdue aussi. Donc, c'est des événements que les policiers surveillent de très près là, au moment où on sort.
Merci, Bénédicte. On va se reparler tantôt si jamais ça évolue du côté de Louisville.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Et puis hier, une autre tuerie aux États-Unis. Fait assez rare, c'est une femme de 28 ans qui s'identifie maintenant, ou en tout cas qui le faisait depuis les derniers mois comme étant un homme, qui est entré dans une école presbytérienne armée de deux fusils d'assaut, une école primaire. Elle avait également une arme de poing. Le bilan, 3 enfants qui ont été tués, 3 adultes également. Et nous parlons ce matin avec Rosalie. Elle habite Nashville, au Tennessee. Elle va à l'université, d'ailleurs, qui est tout près du lieu de cette tragédie. Rosalie, bonjour.
Bonjour, bon matin.
D'abord, vous étiez à l'université quand la fusillade a éclaté puis que vous l'avez donc appris.
Oui, exactement. En fait, j'étais en train d'étudier dans la salle commune quand c'est arrivé. Puis, j'ai entendu un peu de sirènes à l'extérieur, mais c'est quelque chose d'habituel en Nashville, en fait, là, des sirènes et tout, fait que j'ai pas fait de cas. Puis, après ça, il y a eu des murmures, il y a une fusillade dans une école, mais je veux pas, tu penses pas que c'est chez vous. Puis là, par la suite, j'avais un cours de Bible Studies parce que faut pas oublier que je vais dans une école chrétienne, donc c'est un requirement d'aller dans d'avoir ce cours-là, en fait, un cours de Bible. Puis mon prof, à chaque début de période, on fait une petite prière, mais là, la prière a pas été habituelle vu que lui, il nous a comme confirmé que la fusillade était à 5 minutes de mon école. Puis, lui, en fait, il connaît des enfants qui allaient à cette école-là. Fait qu'on a eu vraiment une petite pensée pour la famille et les enfants qui ont eu à vivre cette tragédie-là hier matin.
Ce sont les enfants d'un de ses amis, je pense, qui fréquentent l'école.
Oui, exactement. C'est les enfants de son meilleur ami.
Puis est-ce que vous savez si les enfants ont pu s'en sortir?
Alors que de mon cours, on n'avait aucune information sur les enfants de son ami. Il ne nous a pas contactés non plus. Je pense qu'il était vraiment affecté par la situation.
Donc, vous avez prié avec le prof pour les enfants?
Oui, exactement. C'est quelque chose de fréquent en Nashville. La religion est vraiment importante ici. La plupart des gens ont toute une église habituelle, puis tu les voyais là dans les posts Instagram, Facebook, Twitter, les gens ils publiaient les posts des églises, puis ils disaient je vais prier pour ces familles, pour les enfants affectés. Puis c'est vraiment quelque chose d'important là, dans la culture aussi.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'école où ça s'est passé, sur cette école primaire?
Moi, je suis à 5 minutes de cette école-là. Je savais, quand j'ai entendu le nom Covenant, je savais même pas que c'était proche de chez moi. Je sais que c'est une école chrétienne, mais à part ça, j'ai pas vraiment d'informations sur l'école en tant que telle. Là, c'est une école primaire. J'ai pas vraiment eu de contact avec cette école-là.
OK. Puis je pense que vous connaissez aussi des premiers répondants, là, des pompiers, entre autres, là, qui se sont rendus sur...
Oui, exactement. En fait, j'ai un de mes amis qui est premier répondant, puis il était pas... il travaillait pas ce matin-là, mais ils l'ont appelé pour qu'il aille aider les enfants et les familles, à l'école.
Puis vous aviez aussi une amie qui était comme par hasard devant l'école.
Oui, dans mon cours suivant, est arrivé environ 45 minutes en retard, puis là, j'ai demandé est-ce que ça va, puis elle m'a dit qu'elle était présente sur les lieux parce qu'elle avait un rendez-vous proche de l'école, en fait, c'était son voisin. Puis, quand elle est sortie, elle a vu les enfants blessés, maintenant décédés, dans les civières qui s'en allaient sûrement à l'hôpital. C'était vraiment... elle a dit que c'était vraiment pas beau à voir tout ça, puis que c'était vraiment triste de voir ces enfants-là s'en aller. Qui n'étaient plus dans notre monde, comme ils disent.
Comment vous vous sentez, vous, ce matin, quand, avec le recul, là, le lendemain d'un événement comme celui-là?
Moi, je me sens vraiment reconnaissante de pouvoir partager mon angle sur la tragédie ce matin, parce que malheureusement, c'est pas le cas de certaines familles, certains enfants. Savoir que c'est proche de chez toi aussi, ça m'a ébranlé un petit peu. Pas que je me sens en danger où que je vis, mais c'est sûr que c'est quelque chose à considérer.
Vous avez dit au Tennessee, à Nashville, la religion c'est important, mais on dit aussi que les armes sont importantes, qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent.
Oui, en fait ça c'est partout aux États-Unis un peu là. Ça dépend vraiment des quartiers, de la ville où tu es. Moi, mon quartier, je suis plus en banlieue. Je me sens vraiment en sécurité où que je suis. C'est sûr que si tu vas downtown Nashville à certaines places, c'est pas recommandé de te promener toute seule la nuit, là. Mais à part de ça, moi j'ai pas d'armes. Mon entourage a pas d'armes. Fait que c'est pas quelque chose qui est relié à moi vraiment.
Non, c'est pas dans votre culture.
Ben, non, exactement.
Merci beaucoup. Bon courage à vous et à vos amis qui sont touchés par l'événement.
Mais ça fait plaisir.
Merci. Au revoir. Rosalie, merci, qui est étudiante à l'Université Belmont-Nashville, elle travaille aussi pour les prédateurs de Nashville.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Je le disais donc, 3 enfants qui ont été tués, 3 adultes également. Et vous avez peut-être vu les images de cette jeune femme qui a été abattue par les policiers, là, de 28 ans, qui a fréquenté l'école en question, donc il y a déjà très longtemps, qui s'identifie maintenant comme un garçon, c'est ce qu'elle faisait depuis les derniers mois sur les réseaux sociaux, et qui est arrivée avec le plan de l'école, avec des documents. Il y aurait, semble-t-il, d'autres endroits qui étaient ciblés. Mais ce qui frappe, en tout cas, c'est que c'est un cas d'exception, là, de voir, à travers toutes ces fusillades de masse, que c'est une fille qui est derrière ça. Docteur Gilles Chamberlain est avec nous. Il est psychiatre, vous le savez, à l'Institut Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est vraiment très, très rare qu'une femme pose des gestes comme ça.
C'est extrêmement rare, c'est même anecdotique au Québec, je pense pas qu'on en ait eu. On peut mettre un petit bémol, il était question peut-être que ce soit une personne trans.
Ouais.
À ce moment-là, on pourrait se demander, parce qu'un des facteurs de risque, c'est vraiment la testostérone. Donc, si c'est quelqu'un qui était en voie de changement ou qui connaît, je peux pas dire exactement quelle sorte de trans ça pouvait être à ce moment-là, mais si c'est quelqu'un qui avait encore beaucoup de testostérone, qui en prenait en surplus ou encore qui en avait encore, à ce moment-là, ça peut jouer, évidemment.
OK, mais qu'est-ce qui amène, je vais pour les besoins de la discussion, par exemple, une femme a posé des gestes. Est-ce que ce sont les mêmes réflexes que les hommes? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus?
Absolument. C'est clair que les hommes ont plus tendance à agir leurs émotions. C'est comme si les hommes voulaient régler le problème, le régler vite et le régler le plus définitivement possible. Parce que les femmes sont plus capables de porter les émotions sans les agir. Ils sont plus capables d'en parler aux autres. Ils sont plus capables de consulter. Ils sont plus capables d'en parler à un thérapeute. Et quand elles en parlent, elles sont capables d'en parler plus en profondeur. Donc, ça va diluer l'émotion. Ça va moins porter les femmes à agir les pulsions qu'elles peuvent avoir. Ce qu'on n'a pas chez les hommes.
Mais... écoutez, j'ai vu les images, là, puis ça veut rien dire, là. Il y aura une analyse plus poussée de ça. Mais ça semble quelqu'un de méthodique. Je comprends la colère, la rage, mais quelqu'un qui arrive, qui tire dans les portes vitrées, qui a les plans de l'école, qui a d'autres documents, qui, d'après les policiers, avait l'intention d'aller aussi peut-être ailleurs. C'est quelqu'un qui est enragé, mais c'est quelqu'un qui a planifié ça, de toute évidence, là.
Absolument. Les policiers parlent même de 2 ans de planification, d'après ce que j'ai compris.
Ouais.
C'est souvent le cas. La rage va monter, va s'accumuler, va faire boule de neige, et plus les gens vont y penser, plus ils vont, raffiner leur affaire, plus la colère va être là. On ne sait pas pourquoi ils vont agir à ce moment-là. Il faudra avoir plus d'informations. Mais souvent, c'est quelque chose qui fait boule de neige jusqu'à temps que ça éclate.
Mais, Dr Chamberlain, est-ce que ces gens-là sont conscients? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils tirent sur des enfants, par exemple? Ils sont complètement sans émotion, ils sont ailleurs? Ou ils sont...
Écoutez, on l'a pas évalué, c'est du cas par cas, mais si on prend l'hypothèse de quelqu'un qui veut se venger, ce que les policiers ont retenu, puis ça, on en voit aussi. Dans les écoles, malheureusement, il y en a principalement 2 types de gens qui vont commettre ce genre de crime-là. Soit pour être connus, soit ils vont viser une école parce qu'ils sont assurés que ça va être médiatisé, ou soit encore qu'ils veulent se venger de ce qu'ils ont vécu, et souvent dans l'école où ils ont eux-mêmes étudié. Donc, c'est des gens qui sont malheureusement remplis de colère, et ils vont défouler cette colère-là quand ça va arriver. Donc, oui, ils sont conscients. Justement, c'est parce qu'ils sont conscients qui défoule cette colère-là.
Il y a quelque chose d'inquiétant, là. Puis là, je comprends que la société américaine, c'est une chose, mais on a comptabilisé 129, 130 fusillades avec plusieurs victimes, des endroits comme des écoles qui sont ciblées, bon, des endroits publics. Puis là, à chaque fois, Dr Chamberlain, c'est la même chose, là. Le débat sur le contrôle des armes à feu redémarre, puis est-ce qu'on devrait interdire les armes d'assaut, puis de l'autre côté de la clôture, ils vont dire, ben non, vous voyez, visiblement, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, puis c'est pas une question d'armes. On n'en sortira jamais.
Ouais, des fois, les hommes même pire que celui-là. S'il y a plus de monde qui avait été armé, ouais, on aurait peut-être pu l'abattre avant, donc en mettre encore plus un peu partout. Fait qu'effectivement, c'est un débat de sourds, là. Des deux côtés, on s'en parle pas, c'est clair.
Oui, puis surtout que le premier réflexe, j'ai vu ça d'un politicien local hier, c'est de dire, vous savez, il n'y a pas de garde armée à l'école, donc s'il y avait quelqu'un d'armé, ça ne serait pas arrivé. On en est là.
Exactement. Ou mettre les armes encore plus accessibles à l'intérieur de l'école pour pouvoir se défendre. C'est un espèce de raisonnement que certains peuvent avoir.
OK, dernière question. Je le disais, là, 130 événements comme ça, là, depuis le début de l'année. Est-ce que ça incite les gens qui ont des problèmes à se dire, ben, il l'a fait ou elle l'a fait, puis moi, je vais faire la même chose? Autrement dit, est-ce qu'il y a comme un engrenage qui découle de ça?
Malheureusement, oui. Le phénomène d'entraînement est bien démontré pour toutes sortes de choses. C'est des phénomènes qui sont quand même plus rares, là, les tueries de masse, où il y a 4 personnes et plus qui décèdent. Donc, étudier ça, ça en prend plus. Mais il peut avoir un effet d'entraînement facilement compréhensible. Quelqu'un qui a envie de se venger, qui voit que d'autres le font, ça reste à l'état de fantasme. Mais quand il voit qu'il y en a qui ont réalisé leur fantasme, oui, ça peut pousser des gens à agir. Ça, c'est clair.
Merci, Dr Chamberlain. Bonne journée.
Merci.
Au revoir, Dr Gilles Chamberlain, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Et donc, il y aura bien sûr une enquête et trois enfants décédés, trois adultes. Puis on a presque envie de dire, ben quoi, ce sera demain ou après-demain ou la semaine prochaine qu'il y aura encore une fois un événement triste, tragique comme celui-là.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Il y aura le sommet, le grand chantier là sur les chantiers de Montréal, vendredi. Et on me dit que la Ville de Montréal, en principe, va rendre public des mesures pour rendre la vie moins dure aux gens qui circulent au centre-ville. Et on sait qu'il y a eu cette étude là de la Chambre de commerce où 94 % des rues du centre-ville de Montréal ont été affectées d'une façon ou d'une autre par des chantiers. Puis si on résume là, ce qui se passe au centre-ville, c'est pas compliqué, là. Vous avez énormément de chantiers privés qui empiètent sur la voie publique. Premier constat. Deuxièmement, vous avez la multiplication des cônes de différentes tailles. Il paraît qu'ils sont trop gros. Chose certaine, ils sont abîmés, ils sont laids. Et souvent, on les installe à l'avance pour rien. Combien de chantiers? Il paraît que c'est moins vrai, mais bon. Combien de chantiers sont implantés alors que les travaux commencent pas, où on étire? Puis si vous vous promenez René Lévesque, si vous vous promenez d'autres sur d'autres artères à Montréal, vous le voyez, vous dites, coudonc, ça fait combien de temps que c'est là, ce chantier? Et pourquoi c'est si compliqué? Et souvent, de l'empiètement sur la voie publique. Je vois ça sur Peel, là, puis je vois ça ailleurs, là, où tu dis, mais c'est clair que c'est fait tout croche. On tient pas vraiment compte de l'impact sur la circulation. Bref, est-ce que c'est peine perdue? Est-ce que la bataille est déjà, je dirais, réglée, dans le sens que il faut se rendre à l'évidence qu'on pourra jamais améliorer la situation? Pourtant, on nous dit qu'il y a des solutions qui existent et que il est possible de peut-être faire en sorte de faciliter un peu la vie des automobilistes, notamment avec des outils technologiques. Caroline Arnoux est avec nous. Elle est PDG d'Opea Technologies. Et il y a donc, je le disais, des formules, de la technologie qui existe, qui a été testée dans d'autres circonstances. Madame Arnoux, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous offrez là comme technologie pour aider les automobilistes, puis en même temps, là, pour reprendre l'expression classique, les parties prenantes?
Oui, absolument. Et écoutez, c'est tellement de contexte. Donc, Opea Technologies existe depuis 6 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'on offre réellement concrètement? C'est qu'on est capable de dire aux automobilistes en temps réel exactement quelle rue est fermée, mais plus important, par où passer, les détours à la circulation. Et ça, on est capable technologiquement parce qu'on communique avec des systèmes comme Waze. On peut communiquer avec d'autres systèmes qui sont implantés dans les villes. Et c'est ça qu'on a fait, c'est sur ça qu'on a travaillé les dernières années.
OK. Donnez-moi un exemple où vous l'avez implanté puis comment ça, ça s'est passé.
Oui, donc une des premières villes qui a décidé d'implanter la connexion justement aux citoyens, aux au trafic, ceux qui utilisent leur auto ou d'autres moyens de transport aussi, c'est la ville de Brossard. Et on est très fiers de ce projet-là. Donc, la ville utilise la plateforme qui permet de centraliser les informations où est-ce qu'on va creuser, quand ils vont pouvoir détecter des situations de conflit. Donc, est-ce qu'on ferme plusieurs rues en même temps? Est-ce qu'il y a un détour qui amène vers un autre détour? Est-ce qu'il y a un détour qui amène vers un chantier? Et on est capable, en planification, de voir ces situations-là pour, par la suite, pouvoir implanter des mesures de mitigation sur le territoire. Et quand on arrive en chantier, donc quand c'est barré, c'est fermé, ben c'est cette donnée-là que les gens ont besoin de savoir aujourd'hui.
Mais là, c'est intéressant ce que vous venez de dire. C'est pas juste un outil qui accompagne l'automobiliste, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir, si l'information vous est donnée, là, de savoir, voici les chantiers, est-ce qu'il y a un conflit potentiel de rues barrées qui vont emmerder les automobilistes. Donc, c'est pas juste là, de me guider, là, mais c'est d'essayer de les aider à planifier les travaux.
Absolument, à planifier. Et ça, c'est en respectant les systèmes qui existent déjà dans les villes, mais aussi, on parle beaucoup des autres intervenants là, qui vont entraver. On parle du public, on parle du public plus au niveau des réseaux techniques urbains, donc gaz, l'électricité. On parle du privé beaucoup aussi. puis des projets en immobilier, il manque pas. Donc, c'est toute une industrie qui est impactée. Puis, effectivement, on a réfléchi la solution pour pouvoir connecter avec tous les intervenants d'une manière simple, facile à accéder et qu'on peut mettre dans les mains des utilisateurs sans nécessairement avoir des connaissances techniques pour utiliser un système informatique. Et c'est toujours de penser comment rendre la vie plus facile pour tout le monde. Parce qu'à la fin, on est aussi pris dans ces chantiers-là, dans ce trafic-là. On le vit à tous les jours et on est impacté par ça, là.
On me dit que vous avez également fait des expériences avec Québec, Ottawa, notamment pour ce qui est des changeurs Turcot et le pont Champlain.
Oui, donc c'était un des premiers projets sur lesquels on a eu l'occasion de travailler, d'apprendre beaucoup et effectivement d'évoluer la plateforme. Donc, on a travaillé avec des génies conseils dans la coordination des projets Turcot-Champlain et l'autoroute Bonaventure à la ville de Montréal. Donc, écoutez, dans ce projet-là, c'est spectaculaire parce que c'est une belle preuve de travailler avec des gens de transport collectif, des gens de la ville de Montréal, des gens de génie conseil. Et on voit qu'il y a une réelle collaboration. Tout le monde veut être à la table pour collaborer. Fait que ça a été un de nos premiers projets, effectivement. On a travaillé sur des prototypes de différents cônes orange aussi.
Attendez. Expliquez-moi ça, que vous avez travaillé sur des prototypes de cônes orange.
Ben, on a pensé réellement, effectivement, tout ce qu'on voit aujourd'hui, comment le cône orange prend vraiment une place imposante. Est-ce qu'on veut rendre ça plus intelligent? Est-ce qu'on veut... quels sont les différents scénarios? Donc, c'est purement scientifique. Ça vient un peu rejoindre mon sujet de maîtrise, là. Moi, je suis issue de Polytechnique, donc je mets toujours mon chapeau scientifique aussi.
Mais comment on rend un cône orange intelligent? Et pourquoi est-ce qu'on le rend intelligent?
Écoutez, c'est très scientifique. C'est la grosse question que l'industrie se pose depuis quelques années. Je pense au-delà de penser à des nouveautés par rapport à ça, nous, on s'est concentré à la base d'avoir une plateforme qui permet de communiquer les informations. Rendre un cône intelligent, c'est un gros débat. Je vous cache pas, j'ai moi-même fait plusieurs missions commerciales à l'extérieur du Québec pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et c'est encore un sujet très scientifique en étude, en recherche en ce moment.
Mais l'idée, c'est quoi, là, juste comprendre, c'est de quoi, d'avoir des informations en temps réel sur le nombre de cônes en ville, comment ils sont placés, où ils sont placés, c'est un peu ça.
Exactement. Donc, à la fin de la journée, tout le monde veut avoir la bonne information au bon moment. Et nous, on a travaillé beaucoup comment encourager les gens qui vont utiliser un système informatique à rentrer la bonne donnée au bon moment, peu importe où est-ce qu'ils se trouvent. Et de là, on a mis en place notre partenariat avec la plateforme de navigation Waze. Et on s'est dit comment on va travailler avec les différentes solutions qui existent déjà en utilisation dans les mains de tout le monde pour pouvoir relayer la bonne information au bon moment. Mais au-delà d'aller juste de dire telle rue est barrée, voici une ligne ou un point sur une carte quelconque, c'est que on sait très bien qu'il y a tout un système de gestion de phase dans les chantiers. Donc, on va fermer un côté de la rue, on va fermer les trottoirs, on va fermer les pistes cyclables. Et tous ces phasages-là, on est capable d'avoir ces informations-là vraiment en détail là, pour savoir l'impact réel sur la circulation.
OK. Est-ce que la Ville de Montréal a montré de l'intérêt?
Alors, la Ville de Montréal, écoutez, on lit toutes les initiatives qui sont mises en place. C'est encourageant. On voit qu'il y a une ouverture à tester des solutions. Et on est là pour ça. On est là pour faire partie de ces tests-là, de ces solutions-là.
OK, mais ma question, là, vous me dites, on a fait affaire avec Brossard, on a fait affaire avec le pont Champlain, avec l'échangeur Turcot.
Plusieurs, oui.
OK, faites-vous affaire avec la Ville de Montréal?
Non, on ne fait pas affaire présentement avec la Ville de Montréal, mais je crois sincèrement que la journée des sommet des chantiers, là, ça va être une occasion aussi de... On va pouvoir présenter peut-être notre solution, puis on est ouvert à ça. C'est sûr, de notre côté, on est là, on est présent, on est prêt. Aujourd'hui, vu que la technologie a été testée, on a même obtenu une protection sur la propriété intellectuelle. Donc, on a une propriété intellectuelle enregistrée, ce qui prouve l'innovation. Donc, nous, on est prêt pour faire affaire avec la ville.
OK, vous serez présente au sommet?
En fait, j'ai été, dans le fond, je reporte mon chapeau un peu scientifique. Là. J'ai été nommée par Polytechnique pour assister à cette journée.
Merci beaucoup, Mme Arnoux.
Merci,
au revoir. Caroline Arnoux est PDG d'OPA, cette entreprise. Mais c'est important, là. Ce que je veux dire, c'est une entreprise qui est à Montréal, qui fait affaire avec des villes comme Brossard, je vous le disais, là, l'échangeur Turcot, Pont-Champlain. Et la ville de Montréal, non. Puis là, elle se met pas dans le trouble, je la comprends, là. Mais comment peut-on expliquer, si on a une charte des chantiers, puis qu'on a un sommet, puis qu'on a une escouade, on n'a pas une application, on ne demande pas à la ville de l'inventer, là. Ils n'ont pas testé est-ce que ça marche pour Montréal, parce que c'est pas juste de dire... voici, prenez telle rue à gauche, à droite. C'est de dire, si vous permettez tel chantier, voici l'effet dans le coin. Parce que vous le savez peut-être pas, mais vous avez oublié qu'il y a un chantier de gaz métro, puis bon. Est-ce qu'on va nous dire que tout ça est connu, qu'on n'a pas besoin? Peut-être, mais ça paraît pas. Et juste vous dire que l'équipe qui a fait les recherches pour faire le rapport à la Chambre de commerce de la Ville de Montréal... Rappelons-nous, là, je le dis au début, 94% des rues touchées à un moment donné par des travaux. Quand cette équipe a fait donc des constats sur l'état du centre-ville, puis qu'ils ont présenté leur rapport, malgré deux rencontres avec la ville, ils n'ont pas été invités au sommet. Alors, moi, je veux bien trouver que c'est gentil, que c'est mignon. Et vous comprendrez là, que est-ce que c'est une autre opération de blabla puis de maquillage de la ville? À moins que la conclusion soit que c'est à peu près impossible de vraiment gérer ça convenablement. Bon, je sais que Luc et Nathalie, eux, sont optimistes. Moi, je le suis un peu moins. Mais j'ai pas l'impression qu'on prend tous les moyens pour faire en sorte que ça se règle. Puis là, on verra jeudi quelles seront les mesures, disons, de maquillage.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.